Aujourd'hui, la masterclass de Frédéric Wiesmann avec Antoine Guillot. Extrait du film de Frédéric Wiesmann sur le système d'aide sociale américain Welfare.
Ok, that's it. Just have a seat. Ok. Ok, just have a seat. Ok, Mr. Hamilton, just have a seat.
Hold your head straight, dude. Ok, have a seat.
Ok, sir, just have a seat.
Ok. Siéntate. Have a seat.
Okay, just have a seat, please.
Okay, have a seat.
Mr. Wells, would you mind removing your hat, please? Okay, fine. Okay, have a seat, please.
Alexander Taswell.
4C.
Indian people, he don't like here, you know? I'm Apache from Oklahoma, you know? I'm not gonna give you nothing because I'm an Indian. What's happened to the Indian people? You know, what's happened? You don't good? No good? I'm a human being like anybody, like a white or black or something like that. You understand? And he don't want to help him, you know. He don't want me helping. Because I'm an Indian people, you know. And I don't see too many Indian people in this country, you know, in New York. He got an escape from this reservation. He got in Washington, you know. I take him out from there. Because in there, like a camp, a concentration camp. He take it out of my lamp, you know, and puts me in a reservation like a jail, you know. And now he don't dig in too much. He don't dig it. The government, he don't like it, the Indian people. You understand? He pray it into Indian people, you know? That's what every time I go, he say, you Indian, get out of here. I don't want you Indian in this. That's not good. But you know that. It's not good.
Who's next?
Go to the third floor, to the replacement room. Third floor. Anna, tell her to go to the third floor of the replacement group.
Señora, que vaya al tercer piso, al grupo donde dan los cheques, el grupo R. Es el primero, en el tercer piso.
Who's next? Why are you here, dear?
Fifth floor. Now you have to go. After that, you have to go to employment. Okay?
Yes.
Okay.
So. Have we been accepted?
if she said she's going to house you.
If we're going to house you, that means
okay, you're okay, enough. Okay, thank you, miss. I just want to be reassured. Thank you. And then we got to eat because we're starving.
So could you please go up to the housing first?
Where's that? What floor?
On the fifth floor. And this is on the fourth floor. The employment is on the fourth.
I'll go up there now and then we come back to you?
Yes.
Bienvenue dans cette masterclass avec Frédéric Wiesmann, une heure de leçons de cinéma pour rentrer dans les secrets de la fabrication d'une œuvre qui, faut-il le rappeler, depuis bientôt 50 ans, plus d'une quarantaine de films, vous montre comment les hommes vivent ensemble, de Titicot Follies en 1967 à In Jackson Heights en 2015, en attendant le prochain. Frédéric Wiesmann choisit, vous le savez, un espace social délimité. Il en filme les occupants, ceux qui y travaillent, ceux qui en sont les usagers, et l'ensemble des rituels sociaux qui s'y jouent. C'est une sorte de cadre pour Frédéric Wiesmann, un cadre à la fois au sens géographique et au sens cinématographique, histoire d'observer et tenter de comprendre comment l'ordre s'organise, comment on y résiste, comment se formalise la violence, comment se pratique la transmission aussi, et comment se met en scène et se joue la vie démocratique aux États-Unis, principalement, bien entendu, mais aussi en France. On peut voir cette centaine d'heures comme une vaste comédie humaine, balzacienne, mais aussi renoirienne, qui explore la complexité, qui respecte les raisons de chacun. Une œuvre aussi beckettienne, vous allez peut-être nous en parler, avec une touche de Ionesco, avec de l'humour et de l'humour absurde, objectif et noir parfois. Alors avant cette masterclass, nous avons projeté les 15 premières minutes de ce qui reste sans doute votre film le plus connu, Frédéric Wiseman, votre 9e film, Welfare, un film de 1975 qui était une plongée de 2h42 dans les bureaux d'aide sociale de la ville de New York. On va s'appuyer en particulier sur ce film pour explorer votre processus de création, votre pratique, voire votre méthode. Mais avant cela, on pourrait peut-être commencer par le commencement, Frédéric Wiseman. Qu'est-ce qui fait, il y a quelques années déjà, qu'un jeune diplômé en droit décide au début des années 60, non pas de se tourner vers le droit, même si vous avez pratiqué l'enseignement de cette discipline, mais de vous tourner vers le cinéma, d'une part, ça aurait pu être la littérature, le théâtre, pour lesquels vous avez beaucoup de goût et d'affinité, et au sein du cinéma, pourquoi vous vous êtes tourné vers le documentaire ?
Oui, je suis allé à la faculté de droit pour éviter la guerre en Corée et je n'étais pas un très bon étudiant, j'ai manqué toutes les classes, et j'ai lu des romans et puis après la guerre en Corée, j'étais dans l'armée américaine et puis j'ai passé quelques temps en France et quand je suis revenu, j'étais prof de droit, je sais pas pourquoi, pour quelques années. Et puis je n'aime pas ça. Et le cinéma me touche, intéresse. Et c'est plutôt les documentaires. Et au début des années 60, il y avait innovation. Le magnétophone et la caméra peuvent passer à la même vitesse. Et comme ça, on peut tourner n'importe quel sujet s'il y a assez de lumière. Et j'ai pensé, comme maintenant, il y a tant de sujets qui n'étaient pas tournés, et comme j'ai connu un peu cette prison pour les criminels fous, j'ai demandé à l'administrateur si je peux tourner là-bas, et après 18 mois, j'ai reçu la permission, et en tournant Teddy Cut Follies, le film qui est devenu Teddy Cut Follies, sur cet asile pour les fous criminels, j'ai pensé de faire une série de les institutions importantes. Et j'ai pensé que bonne institution après une prison pour les criminels fous, ce serait une école secondaire. Et puis, après ça, j'ai fait presque un film chaque année autour des institutions américaines. Et puis, en 95, j'ai commencé à tourner un peu en France.
Avant cela, il y avait eu, je crois, des films en 8 mm. Vous étiez déjà exercé à la caméra.
Moi, je n'ai pas vu depuis 60 ans maintenant. Je ne sais pas où ils sont. Mais oui, j'ai fait des films de ma femme faisant le cours ou des martyrs.
Vous êtes passé par Paris bien avant de tourner, mais vous avez eu aussi une expérience dans la fiction. Vous avez été producteur d'un film, un film de Shirley Clarke,
oui,
The Cool World. Est-ce que cette expérience vous a détourné de la fiction ?
Oui, mais The Cool World, c'est moitié fiction, moitié documentaire. Et c'est en regardant ce tournage, j'étais convaincu que je peux le faire moi-même.
Et de vous dire que la fiction ne serait pas votre domaine et que ça serait plutôt le
fiction. J'ai fait un film de fiction, La Dernière Lettre, mais pour tourner un film de fiction, on a besoin de beaucoup plus d'argent. On doit traiter avec l'industrie en général. Pour le documentaire, je sais comment trouver l'argent et il y a tant de bons sujets. Et c'est plus intéressant parce que pour le documentaire, on ne tourne qu'une fois, une séquence qu'une fois. Fiction, on peut tourner, répéter. Et si on est chanceuse, on tourne les documentaires dans les séquences. On doit être Dostoïevski de l'écrire et on est simplement chanceuse de tomber dessus.
Vous êtes déjà demandé pourquoi vous filmez ? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de montrer des choses ou vous avez envie
non,
de filmer ?
Ça me fait le plaisir. C'est un jeu. On peut rire beaucoup, c'est intéressant. c'est complètement absorbant et comme ça, je ne deviens pas clochard.
Ça, c'est le Frédéric Wiseman qui aime blaguer, mais vous avez quand même une raison de... Le temps que vous passez dans une institution, le temps que vous passez à monter, on en parlera tout à l'heure, c'est pour essayer de comprendre quelque chose ou de montrer quelque chose à un public.
C'est comme une cours de, dans le, comment, je sais pas comment on le dit, éducation en adulte, où moi je suis le soi-disant adulte et je fais une étude d'un sujet différent chaque année. Et j'ai une connaissance superficielle de beaucoup de sujets.
Superficiel, vu le temps que vous y passez, vous avez quand même le sentiment, après avoir tourné un film, d'avoir une connaissance un peu plus profonde. Où le mystère reste, justement, Frédéric Wiseman?
Ce n'est pas à moi de faire ce jugement.
Mais vous, quand vous tournez un film, le temps que vous passez là-bas, est-ce qu'il est aussi important que le temps que vous y passez à filmer? C'est-à-dire, est-ce que le fait de voir quelque chose compte autant que ce que vous nous rapportez?
Le tournage est vraiment de recherche, parce que je ne passe pas beaucoup de temps à l'endroit avant le tournage. Par exemple, à la Bureau de Sécurité Sociale, pour Welfare, j'ai passé un après-midi, parce que je ne veux pas être là, regardant et manquer quelque chose d'intéressant qui passe. Et comme ça, le tournage, c'est la recherche, et je découvre le film pendant le montage, parce que je n'ai aucune idée au début quels seront les thèmes, le point de vue, parce que je n'ai aucune idée, c'est ce que je vais trouver. Et c'est seulement en faisant une étude des rushs. Pour Welfare, par exemple, j'ai eu centre de rush. Pour Berkeley, parce que les profs parlent beaucoup, j'avais eu 250 heures, au moins 100 heures. Et ça me prend un an pour le montage. Au moins 50% de montage, ce n'est rien à faire avec la technique de cinéma. Je dois me identifier qu'est-ce qui se passe dans la séquence que je regarde. Parce que même si ce n'est pas vrai, moi je dois penser que je comprends qu'est-ce qui se passe dans chaque séquence. Premièrement, pour prendre la décision si je veux l'utiliser dans le film. Deuxièmement, comment je peux le monter. Et troisième, où je vais placer dans l'histoire dramatique, narrative que j'essaie de imaginer, créer.
Parlons du montage, alors, avant du tournage, puisque c'est manifestement, et vous l'avez toujours dit, le moment le plus important. Comment, dans ces heures et ces heures de rush, vous allez choisir une séquence? Qu'est-ce qui fait qu'une séquence est à retenir avant même de savoir où est-ce qu'on va pouvoir la mettre dans le film?
Oui, je reste dans la chaise pour un an. Je mange intravenously, comme on dit ça en français.
Avec une intraveineuse.
Et je saute quand le film est fini.
Mais encore. Qu'est-ce qui fait que vous allez retenir une séquence et pas une autre?
C'est toujours une combinaison. Les choses qui sont dites, les choses qu'on voit, c'est toujours, je sais pas comment on le dit en français, il y a deux voies. Il y a la voie littérale, qu'est-ce qui se passe, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils discutent, etc. Mais aussi, il y a la voie abstraite. Quelles sont des idées suggérées par les choses littérales? Et le film, il y a ces deux voies. Et le vrai film, c'est entre la relation entre ces deux voies.
Alors, prenons l'exemple ici de Welfare. Prenons cette séquence qui vient de se terminer. Donc, ce couple qui vient demander de l'aide à une femme qui travaille dans ce bureau d'aide sociale. Manifestement, tout ce qu'il raconte n'est pas complètement vrai, même s'ils sont manifestement dans le besoin. Et cette femme va, après avoir essayé de démêler le vrai du faux, va les envoyer vers un endroit qui va les aider. Qu'est-ce que raconte cette séquence, donc, selon les deux voies que vous racontez, vous?
Oui, mais c'est aussi une question où cette séquence est placée dans le film, parce que c'est la deuxième séquence importante où les gens parlent. Mais peut-être c'est mieux de commencer avec le début du film.
Commençons par le début.
Le film commence naturellement avec le titre. Et tout dans le film est un choix. Comme le premier choix que vous voyez, c'est le titre. Et les choix qui sont associés avec le titre, c'est quelle typographie, quelle est suggérée par le choix de typographie. Dans le cas de Welfare, j'ai choisi une typographie que j'ai pensé était assez élégant, va faire un contraste avec les événements que vous voyez dans le film. Et puis, il y a cette séquence où on prend des photos des gens.
Avant même cela, on voit le bureau à l'extérieur.
Non.
Ah, c'est juste après.
Il y a la séquence photo, puis il y a la séquence à l'extérieur, et puis on est dans le bureau. La séquence de photographes, c'est une sorte de prélude. Ça, c'est un exemple. On comprend que photo d'identité, ça, c'est les choses littorales. Une photo d'identité est nécessaire. Okay. Et on découvre plus tard dans le film pourquoi. Mais c'est la première fois qu'on voit les gens qui demandent l'aide de l'État. Qui sont ces gens? À l'époque, tout le monde pense, pas tout le monde, mais beaucoup de gens pensent que ce n'est que les Noirs qui reçoivent le welfare. Et comme ça, dans le choix des personnages que je montre dans cette session de photos, je montre femmes, hommes, Noirs, Chinois, beaucoup de races différentes, beaucoup d'ethnicités différentes. On voit des vêtements différents. On voit ce monsieur dans l'uniforme de l'armée américaine. Et on peut demander pourquoi il apporte cet uniforme quand il va à la centre de sécurité sociale. C'est une spéculation. Peut-être il est venu d'une réunion de American Legion. Mais c'est aussi possible qu'il apporte ses vêtements parce qu'il est un peu gâté de demander le welfare et il veut montrer aux gens qui travaillent à la centre de sécurité sociale qu'il a fait le service pour, il a fait un bon service pour son pays parce qu'il apporte ses médailles aussi. Et la chose littérale dans cette séquence, c'est que la nécessité d'avoir une photo identitaire, mais il y a d'autres idées qui sont suggérées par les images. Et il y a des gens qui voient cette séquence qui disent « Ah, c'est très inhumain qu'on demande des photos. » Mais c'est aussi quand l'État donne beaucoup d'argent, des billions de dollars chaque année aux gens, il faut avoir un système. Ce n'est pas simplement question de jeter l'argent dans les escaliers ou dans la chambre. Il faut un système et les gens qui s'occupent de bureau en responsabilité envers les gens qui paient l'impôt, d'être sûr que l'argent est dispensé dans une façon juste, responsable. Et OK, ça c'est les débuts. Et puis, on voit le premier plan extérieur, le seul extérieur qu'on voit dans le film. On voit le centre, c'est une journée grise d'hiver, etc. Et puis, on est dans le hall. Et qu'est-ce qui se passe dans le hall? On voit beaucoup de gens. C'est un peu comme les gens qui sont photographiés avant, mais on voit hommes, femmes, enfants. Il y a une image d'un artiste qui est assis. Pourquoi j'ai choisi l'image d'artiste? Parce qu'il fait un sketch des gens qui sont assis en attendant. Et, mais ça fait un comparatif dans la façon un peu abstrait, ça suggère l'idée, avant le cinéma, ça c'est la seule façon qu'on peut faire un reportage de qu'est-ce qui se passe. Et il y a un grand livre qui a été écrit en Angleterre dans le 19e, Mayus Poor. Et c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans l'équivalent de les centres de sécurité sociale, le 19e siècle à Londres, et il y a des sketchs et le texte. C'est une façon de suggérer la continuité de ces situations pendant des siècles. Et aussi, on écoute le son. Et le son, on entend les gens dire « numéro 53 » ou « monsieur quelque chose ». Mais les gens qui voient cette séquence, ils disent « c'est très impersonnel, ce n'est pas vraiment chaud de donner chaque personne un numéro ». Et ça pose la question, pourquoi ils ont un numéro? Ce n'est pas parce que l'État veut traiter comme un numéro statistique, c'est pour protéger leur vie privée. Comme ça, tout le monde dans la salle ne connaît pas le nom de leur voisin dans la salle. Et c'est une erreur. Il y a un moment quand une des ouvriers demande M. Dupont. Mais c'est une erreur parce que comme ça, tout le monde connaissance du nom de ce monsieur. On doit toujours penser des implications de qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vais continuer un peu avec les choses que vous avez vues. Puis la première séquence vraiment parlant, c'est avec l'Indien.
Juste avant ça, il y a aussi portraits. Ces gens que vous filmez dans la salle, ce n'est pas seulement des plans généraux d'une salle d'attente, vous isolez des gens et vous en faites comme un mini-portrait par moment, et ça, on le retrouve très souvent dans vos
films.
Oui,
on voit tous les âges, hommes, femmes, enfants, les gens bien, des vêtements bien, les vêtements assez sales, les gens qui dorment, les clochards. C'est tout un assortement de la vie humaine. Et puis, l'Indien commence à dire que... Il dit que la réservation, c'est comme les camps de concentration. Il demande l'aide parce qu'il ne peut pas faire le change d'un chèque. Et il est très fâché. Et la dame qui parle, l'ouvrier qui parle avec lui, explique dans une façon assez patiente qu'il a besoin d'une carte d'identité. Mais ça, c'est aussi une façon de dire au public que ça, c'est la carte d'identité en il y a la photo qui a été prise dans le séquence avant, c'est dans la carte d'identité. Et la carte d'identité doit être donnée par le bureau qui écrit le chèque. Mais ça, ce n'est pas pour... Il y a des gens qui pensent encore que c'est horrible, anti-human, blablabla, parce qu'il y a un système. Mais quand l'État... à distribuer l'argent, ça doit être un système. Peut-être ce n'est pas le meilleur système, mais on a besoin autrement, c'est le chaos. Mais pourquoi l'Indien? Quel est l'import de les choses qu'il dit? Parce qu'il parle de réservation, mais on sait comme ça qu'il est le premier. C'est un cliché de dire, particulièrement maintenant, que l'Amérique est un pays d'immigrés. Mais c'est vrai, et les premiers immigrés, c'était les Indiens. Il y a 15 000 ans. Et j'ai mis cette séquence au début du film pour suggérer cette idée. Et aussi, il y a un moment assez tendre quand il parle avec la femme parce qu'il dit qu'elle est en train de perdre une de ses boucles d'oreilles. Mais c'est bien, c'est un moment très personnel. Et puis, on voit le couple que, pour simplifier, je les appelle le « happy couple ».
Le couple heureux.
Le couple heureux, oui. Et c'est placé comme ça, comme la deuxième séquence assez longue dans le film, parce que aussi c'est contre le stéréotype, parce qu'ils sont blancs, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas hispaniques. Et c'est clair que le monsieur ment. C'est aussi clair que la femme ne ment pas, peut-être elle n'est pas même la capacité de mentir. Et comment vous, le public, comprend que l'ouvrier, elle comprend aussi qu'il ment. Mais il y a une façon non-verbal.
Non-verbal.
Oui, mais elle,
physique,
elle
oui.
fait comme ça.
C'est le langage
pour
du corps.
Pour dire que, je ne sais pas le mot en français, it stinks en anglais.
Ça pue.
Mais quand elle fait comme ça, c'est une façon de nous dire... C'est une façon de nous dire qu'elle comprend qu'il ment. Et je crois qu'elle ne ment pas, mais toute l'histoire de mariage. Et aussi, c'est comique. Moi, je n'ai pas créé la comédie, j'ai reconnu la comédie. Je ne ris pas à ces gens, mais la comédie est dans la situation. Et il faut reconnaître que c'est là. Et c'est souvent le cas, on tombe sur les choses comiques, absurdes, aussi les choses tristes, tragiques, etc. Mais quelquefois, le même événement, c'est comique et tragique à la fois. Bon, ça c'est un peu le sort de choix et les idées derrière le choix. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que au moins 50% de montage, c'est d'identifier pour moi-même qu'est-ce qui se passe. Parce que si je ne peux pas le faire, je n'ai aucune façon de prendre le choix.
Frédéric Weisman. Alors, il y a autre chose qu'on voit à un moment très fugace dans le film, dans le coin supérieur droit de l'image, on voit un micro.
Ok, oui, ça c'est une erreur. Ce n'est pas fait exprès. Et je l'ai laissé dans la séquence parce que c'était avant la possibilité de l'étalonnage digital. Et maintenant, on peut le couper. Mais
maintenant, vous l'auriez coupé.
Oui, certainement. Moi, il y a des cinéastes qui veulent montrer leur image dans le film parce que autrement, ils ont peur que le public pense que le film est si puissant. Ils veulent que le public reconnaître, ce n'est pas, c'est un film. Moi, je ne partage pas cet avis. Mais quand je peux, et à cette époque, je ne peux pas, mais quand je peux, je vais éviter aucune distraction comme le micro. Mais ce n'est pas la seule fois dans les films que c'est là.
Mais il y a même un moment où on vous voit, vous, c'est dans Primate, le film sur les singes.
Oh oui, ça t'est fait exprès.
Et voilà, ça j'en étais sûr. Il y a un mouvement de caméra qui vous montre, vous, assis par terre.
Ça c'est fait exprès parce que je veux reconnaître que je suis aussi Primate.
Un singe comme tout le monde. Mais ça montre aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, que pendant que vous filmez, vous n'êtes pas derrière la caméra, vous tenez
le
son. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce
Parce que ça me donne plus de liberté de choisir qu'est-ce que je veux filmer. Et le caméraman et moi, nous avons des signaux entre nous pour les plans différents.
Mais les signaux disent quoi? Ils disent plan large ou filme cette personne ou voilà combien de...
Oui,
comment faire ton
cadre? Oui. C'est un peu comique de nous regarder, mais ça marche comme ça.
Qu'est-ce que vous vous dites avec votre opérateur avant de tourner? Est-ce que vous définissez une couleur générale de l'aspect qu'aura le film, le cadre, la façon de filmer?
Oui, mais dans un certain sens, dans chaque séquence, il faut trouver la même chose. On a besoin des plans larges, on a besoin des gros plans, des gens qui parlent, et aussi on a besoin des gros plans, des gens qui ne parlent pas, parce que sans ça, on ne peut pas faire le montage. Et moi, je choisis les moments quand on tourne les gens qui parlent ou les moments qui on tourne les gens qui ne parlent pas.
Et moi,
je l'amène avec le micro.
Vous le guidez avec le micro, c'est-à-dire que lui doit avoir un œil dans le cadre et un œil sur
vous.
Il
a un œil dans le cadre, un œil sur moi. Moi, j'ai un œil sur lui et un œil sur les événements.
Mais donc, il faut être très instinctif, j'imagine, pour savoir à quel moment tourner et ne pas tourner, parce qu'on ne peut pas tourner toute la journée
dans un
endroit.
Non. En général, par exemple, pour Welfare, on a tourné après. C'était ouvert, je crois, vers 9h le matin, ça ferme vers 18h, on était là 9h. Mais aussi, j'avais la mauvaise habitude de choisir pour un sujet les endroits qui sont ouverts 24h. Ça devient un problème de temps en temps.
Et alors, le moment où on va se dire, là, il faut tourner, c'est un pari à chaque fois que vous faites. Ça va être intéressant ou pas. J'imagine que souvent, vous croyez que ça va être intéressant, ça ne l'est pas, et que parfois, vous laissez passer quelque chose qui aurait été intéressant.
Oui, tout ce qui se passe. Le model, c'est un peu, j'ai dit ça souvent, mais c'est vrai, le model, c'est Las Vegas. C'est un rule des, comment on dit, dice. Et comme ça, on prend le risque. Et c'est toujours mieux de prendre le risque et tourner beaucoup. Parce que si on ne tourne pas beaucoup, on n'est pas le choix un an après dans la salle de montage. Et quelquefois, on gagne, quelquefois, la plupart du temps, on ne gagne pas. Mais l'hasard est très, très important. Par exemple, cette couple, j'ai vu la femme en attendant. Et j'ai regardé ses yeux, et comment on dit, cross-eyed.
Vous êtes croisé le regard.
Oui, ses yeux étaient croisés.
Et j'ai pensé... Pendant elle louchait, alors.
Et j'ai pensé, c'est peut-être intéressant. Et j'ai commencé à le suivre. Je n'ai même pas parlé avec eux avant. J'ai commencé à les suivre, et j'ai tombé sur cette conversation. Et je n'ai jamais vu après.
Alors quand vous le filmez, ce couple, par exemple, le couple voit que vous êtes...
Le micro est comme ça, que
vous êtes là.
Vous avez vu le micro.
On l'a vu, le micro. Ils font quand même leur numéro, leur tentative de mensonge malhabile devant cette femme. Est-ce que eux, ayant conscience que vous êtes là, ça va jouer pour eux?
Quelquefois, si, oui. Mais tout le monde nous voit, parce que nous ne sommes pas dans une boîte. Quand il y a le temps avant la séquence, je demande la permission. Mais je ne veux pas les arrêter en disant arrêtez pour 10 minutes quand je vous explique. Et souvent, je les explique après. Mais aussi pour cette couple, je n'ai jamais parlé avec eux, ou avant ou après. Mais quand je tourne dans une institution qui reçoit l'argent de l'État, on peut tourner sans permission. Parce qu'on est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, garantie de la liberté de la presse et de la parole. Mais quand je tourne, par exemple, à Neiman Marcus pour le store, J'étais très attentif d'avoir beaucoup, que les gens signent une déclaration qu'ils donnent leur accord.
Mais j'imagine que le directeur de ce centre de welfare, comme toutes les institutions dans lesquelles vous avez tourné, se pose la question quand même de ce qu'on va pouvoir vous montrer ou pas, même s'il y a cet amendement de la Constitution qui vous permet de tout filmer. Mais est-ce qu'il ne se dit pas, on va donner une bonne image de notre institution? Non,
moi, je n'accepte jamais que l'endroit a le droit de regarder le film et dire non. S'il accepte l'idée que je tourne le film, il doit accepter l'idée que moi, j'ai tous les droits de montage. Parce qu'autrement, on peut travailler plus que non. Et les gens peuvent dire non. Et on a passé beaucoup de temps en travaillant, on a dépensé beaucoup d'argent. Et non, je ne cède. Et ça, c'est toujours écrit en avant. C'est bien compris. Et je suis étonné, mais la plupart des gens acceptent ça. Parce qu'ils veulent être filmés.
Comment est-ce que vous allez les voir? Comment est-ce que vous les convainquez? Une fois que vous avez trouvé ça, ça serait une bonne idée de faire un sujet. Quelle est votre démarche très concrètement?
Par exemple, pour Welfare, la démarche, j'ai téléphoné à le commissioner de Welfare à New York. J'ai eu un rendez-vous avec lui. Je lui ai expliqué que je veux tourner un film dans un centre. Il a dit oui tout de suite. Et puis, mon grand secret que je vous dis pour la première fois, c'est que je pose la question. Je fais la demande. Ça, c'est le secret. Et presque tout le monde dit oui tout de suite.
Vous avez eu des refus?
Oui, j'ai commencé le film que vous voyez ce soir de Law and Order à Los Angeles, et j'ai tourné une semaine à Los Angeles. Le commissaire de police a dit que je ne peux pas continuer à tourner dans les voitures de police. Et comme ça, à cette époque, les polices ne marchent pas dans les roues. Ça a tué l'histoire. Et puis, quelques semaines après, je suis allé à Kansas City, Missouri, où le chef m'a donné permission et il n'a pas vu le film, juste que c'était complètement monté.
Alors ça, c'est pour les institutions américaines. Est-ce que quand vous tournez en France, quand vous tournez à la Comédie Française, à l'Opéra de Paris, par exemple, les choses se passent de manière aussi facile ou c'est plus compliqué?
Non, j'ai eu la permission à la Comédie, à l'Opéra très facilement. Un endroit à l'autre, j'ai demandé les gens signent quelque chose. Parce que dans les deux films, j'ai parlé à la Comédie, j'ai parlé avec les comédiens et les autres ouvriers là-bas, et ils ont donné leur accord avant, oral. Ce n'est pas écrit, mais il y a 23 syndicats à la Comédie, et tous les syndicats ont voté de me donner permission. Et à l'Opéra, j'ai parlé avec, et comme c'est la France, c'était nécessaire de parler avec le chœur et les danseurs principaux et les étoiles dans les réunions différentes, parce que c'est très hiérarchique. Mais ils ont tous donné l'accord, et comme ça, ce n'est pas nécessaire. Et pour le public, on voit un peu le public dans les deux films, mais je n'ai rien demandé. Et il n'y avait pas un procès.
Frédéric Weisman, pour revenir un peu à une question précédente sur le changement que peut provoquer la caméra, est-ce que vous n'avez jamais eu l'impression quand même que des gens se mettaient en scène devant vous, au-delà du rôle même qu'ils jouent? Je pense à la Comédie Française et à ces incroyables réunions de conseil d'administration, dont la moitié sont des comédiens, et même la plupart, donc sont déjà dans une représentation, mais ils ne l'étaient pas encore plus avec vous?
Non, j'avais peur de ça en avant, mais quand ils jouent au plateau, ils jouent. Mais quand ils étaient dans les réunions de comité, ils ne jouent pas parce qu'ils étaient si occupés. Moi, j'avais peur de ça en avant, mais ce n'était pas un problème. Les comédiens à part, la plupart des gens ne sont pas assez bons comédiens de changer leur comportement parce qu'ils sont filmés. Ils peuvent dire non, ou faire comme ça, ou marche ailleurs. Mais s'ils acceptent l'idée, et ça passe presque jamais, s'ils acceptent l'idée d'être filmés, ils n'ont qu'un rôle. Ils continuent et ils réagissent dans la façon qu'ils sont bons pour la situation où ils se trouvent. Il y a le meilleur exemple de ça, c'est dans un film qui soit projeté ce soir, c'est Law and Order. Il y a une séquence dans Law and Order avec les polices et une femme qui est une prostituée. Et pour arrêter une femme pour ce travail à Kansas City, à ce moment, il faut avoir un prix et un acte. Et comme ça, le policier doit faire le pick-up et il doit aller dans la chambre d'hôtel avec la femme et enlever les vêtements. Et on dit à la dernière instant, dit, moi je suis officier, je vous amène à la station. Et il a fait ça, et en descendant les escaliers de l'hôtel, elle a attaqué, il a tombé, et elle est en fuite, et elle a téléphoné à la voiture de police, et nous étions dans la voiture de police. Nous sommes allés à l'hôtel, et un ouvrier à l'hôtel a dit que la femme est dans la cave. La police a trouvé la femme dans la cave. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai un peu de lumière avec moi. Et la police a trouvé la femme sous les vieux meubles. Et une des officiers commence à étrangler la femme. Et comme ça, et devant la caméra. Il a fait ça pour, je ne sais pas, 20 secondes. Et puis il la laisse tomber. Et elle a la difficulté en soufflant, et puis elle dit à l'autre officier qui garde ses bras, oui, il essaie de m'étrangler. Et l'autre officier dit, non, vous imaginez ça. Et vous le voyez dans le film. Mais je crois que cet officier a commencé à étrangler cette femme parce qu'il a pensé, ça c'est la façon juste de traiter avec une femme qui a attaqué un officier. Et il veut l'instruire dans la façon que ces prostituées doivent traiter avec la police. Et il l'a dit dans la séquence. La prochaine fois que vous êtes arrêté, vous acceptez, vous allez dans la station avec nous, on prend votre photo, vous payez une amende de 50 €, et vous serez dans la rue encore dans 30 minutes. Mais n'attaque pas notre officier. Mais je crois que cet officier a étranglé la femme parce qu'il veut le punir parce qu'elle a attaqué une de ses amies. Et il veut l'instruire dans le système prostitué police. Et il a pensé que c'est juste. Et ça, c'est un exemple extrême. Des choses qui passent toujours. Nous tous pensons que nous agissons dans une façon juste. Mais notre comportement, les autres qui nous regardent, peut-être n'ont pas le même avis que nous sur notre comportement. Et c'est pour ça qu'on peut tourner ces films, et c'est pour ça que je crois que les gens ne jouent pas. C'est une réponse très longue.
Mais très instructive. Est-ce que, quand vous êtes confronté à des situations comme ça, de violence, des situations très difficiles à tourner. Je pense à votre long et incroyable film Near Death qui se passe dans un centre de soins palliatifs. On est vraiment accompagné les gens jusqu'à leur mort. Où vous ne vous sentez plus de filmer, où vous dites faut que j'arrête de filmer.
Non, jamais. Non, parce que c'est l'idée de filmer, c'est une sorte de défense contre les choses qu'on voit, parce qu'on est là pour travailler. Et j'étais guéri de mon hypochondrie pour 2 semaines.
Mais ça vous donne le sentiment, en filmant, d'être là tout en n'étant pas là, quand vous dites que ça, vous êtes protégé d'une certaine manière par votre...
Oui, parce qu'on est là pour travailler. Et c'est une sorte de protection.
Il y a des images, par exemple, que vous êtes senti de tourner, mais pas de monter, parce qu'elles étaient trop, justement, trop dévalorisantes pour quelqu'un, trop violentes, trop, ou simplement
non.
Parce que vous ne saviez pas
non.
Où les mettre.
Si les gens acceptent l'idée d'être filmé, je les utilise. C'est peut-être il y a un débat sur les questions éthiques de ça, mais ça c'est on ne peut pas l'avoir dans les deux sens. Moi, je suis là pour tourner le film. Si les gens acceptent l'idée de tourner, très bien.
Mais vous, personnellement, par rapport à un personnage, parce qu'on le voit dans la complexité, dans la manière de les montrer avec leur mensonge aussi tout à l'heure et leur beauté en même temps, vous vous dites, vous sentez une responsabilité dans la manière de montrer les gens?
Oui, j'ai une grande responsabilité de ne pas tourner les choses dans une façon que je ne crois pas existe dans la soi-disant réalité. Et le mot n'est pas objectif parce que c'est, dans ces cas, c'est un mot idiote. Mais j'essaie d'être juste. Et c'est mon définition de juste. Et ce n'est pas juste. Par exemple, je ne veux pas faire une chose comique par la façon que je fais le montage. Si c'est comique, parce que c'est vraiment comique, je le montre. Mais parce que si je fais le montage et comme le twisted, tordu,
oui.
pour faire les choses comiques, c'est moi qui est le clown.
Je voudrais revenir sur la question de la durée des plans. Est-ce que l'arrivée du numérique, parce que quand on est dans Welfare, on pense bien qu'il faut changer le magasin de la caméra. Vous devez avoir une quinzaine de minutes maximum à tourner. Est-ce que le fait de pouvoir tourner plus longtemps a changé quelque chose dans votre manière de travailler ?
Même avec une pellicule plus longue que 11 minutes. Mais avec le magnétophone, on a eu 27 minutes. Et ça prend 20 secondes de changer. C'est rare qu'on manque quelque chose. Mais même si l'image est importante, on a enregistré les mots. Et on peut toujours recommencer avec un gros plan de quelqu'un qui ne parle pas. C'est pour ça qu'on doit être attentif de ce qu'on a besoin. Moi, je dois toujours penser pendant le tournage des plans que j'aurais besoin pendant le montage. Parce que, et particulièrement quand on est dans le montage et on n'est pas des bons plans, on se souvient ça la prochaine fois qu'on tourne.
Justement, qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'apprendre au fur et à mesure de ces années à tourner ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé, que chaque film vous apprenez quelque chose pour celui
d'après ? Oui, j'espère, mais ce n'est pas à moi de le dire.
Mais quelles sont par exemple des erreurs que vous estimez avoir commises dans vos tout premiers films et que vous êtes juré de ne plus jamais répéter après ?
Oui, mais il y a des erreurs, il y a des événements que je n'ai pas tourné, que c'était une erreur de ne pas tourner. Il y a des erreurs dans le montage. C'est pour ça que je n'en vois presque jamais un film après que c'est monté. Parce que quand je vois un film après 5 ans, je ne vois que les erreurs.
Vous n'avez jamais été tenté de reprendre un film comme
non,
un peintre retouche sa toile ?
Non. C'est ce que j'ai pensé à la tombe, ça va. Non. Et peut-être j'aurai toi maintenant.
Oui, parce que les films se répondent aussi parfois. Est-ce qu'il n'y a pas, Frédéric Weisman, il y a des séquences chez vous, il y a les films où Welfare répond à Hospital, par exemple, d'une certaine façon. Les clients, les patients d'Hospital peuvent se retrouver dans Welfare. Est-ce que...
Et aussi avec Law and Order, c'est beaucoup de même jeu.
Voilà, il y a cette période-là. Il y a une période qui est plus ouverte sur des lieux de consommation, comme The Store, ou des lieux plus larges, comme Central Park, par exemple. Et puis, depuis le milieu des années 90, votre travail sur les institutions culturelles, on a parlé des films français, il y a Ballet aussi, il y a National Gallery.
Si j'ai commencé, si le premier film que j'ai tourné était sur les arts, et puis j'ai fait Welfare, les gens me demandaient pourquoi j'ai abandonné les films sur l'art. La vraie réponse, c'est que j'ai essayé de tourner tous les sujets que je peux, les sujets différents. Et c'est complètement un peu le hasard. Ce n'est pas parce que j'étais à Paris et j'ai demandé permission de tourner la danse. Après la danse, un ami m'a amené à Crazy Horse et j'ai pensé à une autre forme de danse. Moi, je ne veux pas, sauf que avec High School 2, et les deux films sur le ballet, je n'ai pas répété un sujet. Parce que je veux, avant que je disparaisse, de tourner beaucoup de sujets différents.
Vous avez combien de sujets auxquels vous pensez en ce moment?
Beaucoup. Non, on ne manque pas des sujets.
Comment est-ce que vous vivez les réactions à la fois du public, à la fois des institutions filmées ? On sait que Titicut Follies, ça s'était très mal passé, puisque l'institution de prison psychiatrique a essayé, après, d'interdire le film. C'était un combat pendant des années. Mais vous montrez systématiquement vos films aux gens que vous avez filmés.
Oui, quand le montage est terminé et tout est fait, je monte le film. Et si je peux les trouver, par exemple, les gens au Bureau de Sécurité Sociale, c'est difficile de trouver les clients. Mais j'ai montré à la centre pour les ouvriers et quelques clients. Pour Near Death, j'ai montré le film aux familles des gens qui, à cette époque, étaient morts. Mais j'essaie toujours, il y a toujours une projection. Mais c'est vrai que tout le monde qui est dans le film ne vient pas.
Qu'est-ce que vous avez comme retour récemment ? Est-ce que les gens se reconnaissent dans votre film ou sont surpris de votre regard sur eux ?
Oh, c'est difficile à généraliser. Mais les gens qui me parlent me dit toujours qu'ils aiment le film est juste, mais les gens qui ne me parlent pas, j'ai aucune idée.
Et le public?
Oui, certainement, s'il me dit.
Oui, mais ils vous le disent quand vous venez les rencontrer. Est-ce que vous, ça vous apporte quelque chose?
Pas souvent, actuellement. Non, un peu, mais pas souvent.
La critique, est-ce que vous lisez les critiques sur vos films? Est-ce
oui,
que
sûr. Naturellement, j'admets que je lis les critiques.
Et alors?
Quelquefois, je suis d'accord. Quelquefois, même si la critique est bonne, je ne suis pas d'accord.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que la critique peut vous apprendre quelque chose sur votre travail ou sur peut-être quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire parce que des gens n'ont pas compris la subtilité?
J'ai appris tout ce que je connais du cinéma des critiques.
Mais non. Moi, je pense que vous avez beaucoup appris du cinéma par d'autres formes d'armes. J'aimerais vous me parliez de votre rapport à la littérature. Je parlais de Beckett et de Ionesco tout à l'heure. Est-ce que
je lis beaucoup et je crois que mes films sont, à mon avis, sont plutôt liés des romans que je lis que le journalisme, les actualités. Parce que moi, j'essaie que le film soit une réflexion de la complexité, de l'ambiguïté, de tout ce que je trouve. Et mes films, à mon avis, ne sont pas idéologiques, parce que je n'ai jamais trouvé une explication idéologique qui explique tous les événements si complexes et ambigus que je trouve.
Et quelle lecture en particulier?
J'aime beaucoup les écrivains américains du 19e siècle. Et maintenant, je viens de découvrir un écrivain français qui n'est pas très connu, Patrick Mondiano, que j'aime beaucoup. Mais ça m'a pris des années de le découvrir.
Mais en quoi, encore une fois, très concrètement?
Moi j'aime particulièrement Melville. Mm. Melville, ce n'est pas Moby Dick, naturellement, mais il a écrit des autres romans qui sont magnifiques, particulièrement L'homme de confiance, parce que qui était écrit, je ne sais pas, en 1850, mais tous les types typiques de l'Amérique, même maintenant, sont dedans. On voit Donald Trump est dedans, Al Sharpton est dedans, les gens qui sont des propriétaires de hedge funds sont dedans, les religieux de l'extrême droite sont dedans. Et c'est un film, je veux tourner un film de ça, c'est un roman magnifiquement comique.
Le rythme de vos films, le rythme général du montage pour vous est un rythme littéraire aussi? C'est-à-dire qu'on est dans
Oui, mais j'espère que mes films ne sont pas des documents, ils sont des films et je dois trouver un rythme qui marche pour un film. Et je fais comme ça, toujours. Non, c'est très important, parce qu'autrement, je travaille beaucoup sur la structure dramatique, la narrative dramatique, parce qu'autrement, même si les séquences sont intéressantes, s'il n'y a pas un bon rythme, ce n'est pas un film.
Le rythme, d'ailleurs, est très syncopé par moments. Vous avez des plages. Quand on a une séquence très forte par moment, vous pouvez partir sur quelque chose de plus calme, c'est un mouvement quoi qui est presque symphonique.
Oui, mais parce
en fait.
Que, par exemple, s'il y a une séquence très dramatique, je ne le suis pas une autre séquence très dramatique. Peut-être un peu de musique, peut-être quelques plans des couloirs où les gens assis. Il faut toujours laisser assez de temps pour enregistrer. C'est ce que vous venez de voir.
Vous travaillez seul au montage ou vous avez quelqu'un qui vient de temps en temps voir où vous
êtes
pour...
Quand j'ai travaillé en pellicule, j'ai travaillé seul. Maintenant que je travaille en numérique, je suis lent en numérique, j'ai une très bonne assistante.
Mais qui vous êtes curieux des retours qu'elle peut... C'est une discussion que vous avez avec elle ou elle est juste là pour appuyer sur les boutons?
Non, je ne parle pas beaucoup pendant le montage.
Vous montrez vos films avant qu'ils aient une forme définitive. Comment est-ce que vous savez
que jamais.
Comment est-ce que vous savez que votre film est terminé, par exemple?
Je crois que j'ai fait mon mieux avec le matériel. Mais au début, j'ai montré le film un peu de gens, mais j'ai trouvé ça confondant parce qu'ils n'ont pas une connaissance des choix, ils ont des opinions différentes. Et moi, je crois que l'autre a toujours raison. Ça ne m'aide pas. Il faut que je reste avec mon jugement.
Et vous vous donnez une durée limitée, par exemple, vous dites au bout de 8 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps vous
non,
prenez, il faut
pas,
que j'ai terminé.
Non, ce n'est rien à faire avec le temps. Par exemple, je viens de terminer le montage d'un film il y a quelques jours, et avant que c'était terminé, j'ai vu plusieurs fois sur le petit écran dans la salle de montage, et j'ai vu 4-5 fois dans une grande salle, sur un grand écran, parce qu'on voit les choses qu'on le voit dans le grand écran, qu'on n'a pas vu dans la salle de montage. Et finalement, j'ai accepté, j'ai fait mon mieux. Mais parce qu'on peut travailler pour toujours, parce qu'il y a toujours des choix différents, et finalement, c'est fini. Je n'ai pas la difficulté de terminer. Ça prend peut-être une semaine de plus. Mais...
Et qu'est-ce qui fait que le film trouve sa durée? Pourquoi est-ce qu'il y a des films qui durent 6 heures et d'autres qui durent 1h20?
Ça suit le sujet. Moi, je crois que j'ai... Mon obligation est envers les gens qui me donnent les permissions. Mon obligation n'est pas envers la chaîne. Parce que ce n'est pas Dieu qui dit un film doit être 54 minutes, c'est un illustrateur de chaîne. J'ai fait des films de langues très différentes. Law and Order, c'est 83 minutes. High School, c'est 73 minutes. Near Death, c'est 6 heures. Le durée, c'est le durée qui arrive après le montage. Et je suis très... en Amérique, la télévision publique présente le film, projette le film dans la durée que je les donne. Et il ne voit pas aucun cadre avant que c'est terminé. Mais je suis très contente. J'espère que ça va continuer.
Oui, mais justement, on n'en a pas parlé. Comment est-ce que vos films sont produits et financés? C'est vous, le producteur?
Moi, je suis le producteur, mais je cherche l'argent. Pour les films français, j'ai chanté devant la Galerie Lafayette tous les samedis et j'ai vendu les stylos et, non, il y a peut-être 8 ou 10 endroits dans le monde où on peut chercher l'argent. En Amérique, c'est la télévision publique, PBS. Il y a quelques fondations comme Ford Foundation m'a beaucoup aidé depuis le début, presque depuis le début. MacArthur Foundation et ITVS, qui est une partie de Public Television, quelquefois Sundance Foundation, quelquefois des autres petites fondations privées, Left Foundation, par exemple. Et il y a une ou deux fois que j'ai touché l'argent de Arte, deux, trois fois BBC. Mais en général, c'est les fondations américaines. Et pour les films que j'ai tournés en France, j'ai eu l'avance sur recette. Parce que j'ai eu un producteur français.
Oui, parce qu'en France, vos films sortent en salle. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, c'était très difficile.
Non, c'est les derniers 10 ans, ça commence à sortir en salle. En Amérique aussi, c'est peut-être les derniers 15 ans, ils commencent à sortir en salle. Mais en salle, sauf que la danse et National Gallery, il n'y a pas un grand public. Mais ça sort, les autres, at Berkeley, Boxing Gym, Crazy Horse, on passait dans toutes les grandes villes de France, mais pas, il n'y a pas jusqu'à l'instant, sauf pour ces deux, la danse et National Gallery, il n'y a pas un grand public.
Mais le fait que vos films soient plus régulièrement et quand même systématiquement projetés en salle sur grand écran...
Oui, c'est mieux. Oui. C'est la meilleure façon de voir n'importe quel film.
Mais est-ce que ça a changé votre façon de faire les films aussi, en se disant, on ne pense pas pareil, j'imagine, quand un film va être diffusé sur un petit écran ou sur un grand...
Moi, j'ai toujours espéré que les films soient projetés dans un grand écran et ils sont tournés avec cette idée.
Alors, pour finir, vous ne faites pas que du cinéma, Frédéric Wiseman. Vous faites aussi du théâtre. Vous avez mis en scène. La dernière lettre avant d'être un film était une pièce de théâtre que vous aviez montée avec Catherine Samy. Il y a eu aussi Oh les beaux jours. Vous avez monté, je crois, du Pirandello aux États-Unis. Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de, hormis le plaisir et que ça vous amuse?
Non, ça m'amuse. Mais... C'est pour ça. Il faut essayer quelque chose de différent de temps en temps. Et les pièces que j'ai montées, c'était les pièces qui m'intéressent. Le sujet m'intéresse beaucoup. Et j'étais chanceuse. C'est au cause du tournage de la Comédie Française que Jean-Pierre Michel, qui était l'administrateur, à l'époque, me demandait si je veux monter quelque chose au studio théâtre. Et je lui ai proposé la dernière lettre. Et puis après, Marcel Beauzenet, j'ai parlé avec lui pour le Beckett. Et après, j'aime beaucoup Emily Dickinson et j'ai présenté une pièce autour de la vie d'Emily Dickinson au Lucernaire.
Est-ce que votre expérience de documentariste vous a apporté quelque chose pour diriger des comédiens, pour mettre en scène?
Oui, mais ça m'aide beaucoup parce qu'en tournant les documentaires, on voit les gens dans beaucoup de situations. Mon expérience avec les gens est beaucoup plus grande que si j'étais prof de droit, par exemple. Et comme ça, je crois, je ne le fais pas exprès, mais j'ai un bon souvenir de toute l'expérience en tournant et en montant les films. Et c'est quelque chose qui se m'aide quand je pense de façon que les gens peuvent, les comédiens peuvent réagir.
On a le sentiment aussi que vos films, c'est un répertoire de gestes aussi, d'attitudes, de façons de bouger. Vous avez toujours été aussi très, très attentif à ça.
Par exemple, Catherine Samy, qui joue dans La Dernière Lettre, et aussi le Beckett, elle a vu plusieurs de mes films, mais je n'ai pas, je crois qu'avec un grand comédien comme Catherine, ce n'était pas nécessaire qu'elle voie mes films pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai suggéré des choses, mais je n'ai pas montré les films.
À l'inverse, certains de vos films font l'objet d'une adaptation sur scène. Il y a un travail qui se fait en ce moment autour de Titicut Follies.
Oui, enfin,
un ballet. Qu'est-ce que vous pouvez
enfin, un ballet de Titicut Follies. Titicut Follies, le ballet. Et ça va sortir à New York en avril 2017.
Vous êtes impliqué dans ce travail ou juste vous observez?
Je suis un peu impliqué parce que j'attends beaucoup de répétitions et je offre mes suggestions, mais il y a un chorégraphe qui est responsable. Moi, je dis mon opinion, c'est à lui s'il accepte ou non.
On attend de voir ça. Merci beaucoup, Frédéric Wiseman, d'avoir inauguré cette série de masterclass de France Culture. Merci de nous avoir donné quelques secrets de fabrication, mais on sent que vous en gardez quand même pas mal pour vous, Frédéric Wiseman. Faut pas tout dire.
Peut-être.
Faut pas tout dire. Merci, bonsoir.
Merci.
C'était la masterclass de Frédéric Wiseman avec Antoine Guillot. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.